La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Il est 7h14, les voix de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Fabrice Le Sachet.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes le vice-président du MEDEF, vice-président en charge de l'Europe. Avant de parler d'Europe, puisque vous avez fait des propositions sur le sujet cette semaine, la grosse actualité sociale, on en parlait avec Étienne Lefebvre à l'instant, c'est cette négociation ratée sur l'emploi des seniors. Est-ce que vous regrettez que ça n'ait pas abouti et que donc, de fait, les partenaires sociaux laissent les clés du camion au gouvernement ?
Bon, on entend raté, échec, on peut pas avoir un accord à tout prix. Les vraies raisons de ce non-accord, c'est quand même en grande partie les demandes des syndicats. Nous, on est entré dans cette négociation de bonne foi. L'objectif de cette négociation, c'est augmenter le taux d'emploi des salariés seniors. Et c'est vrai qu'en France, on a un retard à peu près 10 points de moins que la moyenne européenne. Même si ce taux d'emploi a beaucoup augmenté ces dernières années, il n'est pas encore au niveau de nos voisins. Et donc, on a fait des propositions parce que c'était le but de la négociation. Le CDI senior, la négociation dans les entreprises sur le sujet. Néanmoins, lorsque les syndicats proposent d'augmenter les coûts ou la charge pour les finances publiques, c'était pas du tout l'objet de cette négociation, ni la finalité, et c'était encore moins la lettre de cadrage du gouvernement. On connaît tous la situation des finances publiques, et il était hors de question pour nous de contribuer à accroître la charge pour les finances publiques aujourd'hui.
On entend dire parfois, mieux vaut ne pas se mettre d'accord et laisser le gouvernement se charger des annonces et des décisions difficiles. Est-ce que c'est le cas ?
Non, c'est pas du tout le cas. Il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été signés par les partenaires sociaux ces dernières années. Donc, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a cette politique de la facilité. On sait prendre nos responsabilités. Je rappelle quand même qu'on a signé l'année passée un accord très exigeant sur le partage de la valeur avec plus d'une trentaine ou quarantaine de mesures. D'ailleurs, cet accord a été transposé très fidèlement par le législateur. Aujourd'hui, malheureusement, on attend toujours les 5 décrets d'application. Donc, je pense qu'on peut pas accuser ni le MEDEF, ni les partenaires sociaux de ne pas remplir leur rôle. Néanmoins, à un moment donné, lorsqu'il y a un désaccord fondamental, on peut pas, à l'impossible, nul n'est tenu, on peut pas signer des accords dont on pense qu'ils ne sont pas ni positifs pour nos entreprises, ni positifs pour l'économie, ni positifs pour le pays.
Mais là, on pensait, et d'ailleurs, c'est ce qui avait été dit il y a quelques jours par les partenaires sociaux, j'allais dire tous ensemble, ils avaient un peu l'impression de vouloir à tout prix, justement, réussir à toper pour ne pas que le gouvernement puisse reprendre la main. Est-ce que le paritarisme est en train de mourir, voire est mort, de fait ?
Non, là je pense que on dramatise un petit peu les choses. Le paritarisme, c'est un champ qui est extrêmement large. Si vous voulez des exemples de paritarisme qui fonctionne, je peux vous en citer pléthore.
Là,
les retraites complémentaires Agirc-Arrco, Action Logement qui
mais
fonctionne
même sur
très bien.
Le gouvernement semble avoir envie de piocher dans la caisse.
Mais ça c'est encore autre chose. Vous me dites est-ce que le paritarisme est mort ? Moi je vous dis qu'il est vivant et bien vivant, qu'il fonctionne. Le paritarisme de négociation, puisqu'encore une fois, je le rappelle, on a signé un certain nombre d'accords. On a tendance à effacer très vite ce qui a été signé. Néanmoins, sur la santé au travail, sur le déconfinement, lorsqu'il y avait le Covid, c'était il n'y a pas si longtemps que
des
ça.
Des sujets plus consensuels.
Plus consensuels, je ne sais pas. La santé au travail, ça peut être aussi des sujets qui amènent des questions compliquées. Le partage de la valeur, c'était absolument pas simple et pourtant, on a encore une fois réussi. Là, en l'espèce, je suis désolé, notre mandat, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors. D'ailleurs, il y a peut-être aussi un lien historique dans notre pays. Il ne faut pas se le cacher avec l'âge de départ légal à la retraite. Quand on était à 62 ans et à une certaine période à 60 ans, il ne faut pas s'étonner qu'on ait aussi, après, un taux d'emploi des seniors qui soit moindre que des pays où l'âge de départ légal est un petit peu plus élevé.
Ça donne un horizon. Fabrice Le Sachet, vice-président Europe du MEDEF. Le MEDEF dévoilait hier ses propositions, précisément sur l'Europe, à 2 mois des élections européennes. Est-ce que c'est une façon d'abord de réaffirmer que pour vous et pour les entreprises, la question de l'appartenance à l'Union européenne ne se pose pas ?
Il y a une nécessité de l'Union européenne qui est très claire. L'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. On a tendance à l'oublier. C'est la première zone de consommation du monde. C'est aussi un espace de liberté. Liberté de circulation des biens, des capitaux, des services, des marchandises. C'est un espace d'innovation. C'est aussi un espace qui permet d'avoir du poids dans la mondialisation. Je prends un exemple concret. La négociation des accords commerciaux. Grâce à l'Union européenne, on a négocié ce fameux accord qui fait la une des titres, le CETA, avec le Canada, qui est très bénéfique, contrairement à ce qu'on entend, à l'Europe et à la France, avec un poids évidemment de négociation, quand on représente un marché de 450 millions d'habitants, qui est extrêmement supérieur à ce qu'on pourrait faire si on était tout seul. Et je prends cet exemple parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, c'est le fameux Brexit, et le projet de Global Britain qui visait à signer tout un tas d'accords commerciaux, aujourd'hui, il est quand même assez nébuleux. Donc, l'Europe a des avantages, a des leviers pour nos entreprises qui sont absolument nécessaires, vitaux, mais néanmoins, il y a des orientations de l'Europe qui ne vont pas. Il suffit de prendre les chiffres, il y a un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il y a 15 ans, on avait quasiment le même PIB que les États-Unis. Aujourd'hui, on représente 57% du PIB américain, oui. Donc il y a bien un décrochage. Sur les investissements industriels, pareil, 6,7% d'investissements industriels depuis 2013, les États-Unis 17%, la Chine 19%.
Donc alors vous faites tout un tas de propositions, vous proposez un choc de simplification, ça tout le monde sera d'accord, un fonds souverain pour la réindustrialisation, vous en parliez à l'instant, la création de diplômes européens, tout cela dans une logique donc de prospérité, de produire plus. Vous dites il ne faut pas que l'Union européenne perde de vue l'impératif de prospérité économique. C'est un risque de perdre un peu cette boussole-là.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup de textes, notamment sur l'accélération en matière d'environnement, et on peut partager les objectifs de long terme. On s'inscrit dans la trajectoire de l'accord de Paris, dans le net zéro en 2050. Néanmoins, et les 55% d'émissions en moins d'ici 2030, néanmoins, la France, c'est 0,9% des émissions mondiales pour 3% du PIB mondial. Donc, bien sûr qu'il faut être ambitieux, mais il faut garder aussi, surtout, une volonté de production sur notre sol français et européen, et il faut avoir aussi une vision de compétitivité. Aujourd'hui, on dépose plus de brevets en Chine et en Asie qu'en Europe. Il y a seulement sur le top 100 des capitalisations mondiales tech, il y a seulement 10 entreprises européennes. On parle de l'intelligence artificielle qui est pour nous nécessaire parce qu'on est soumis à une nécessité de choc de productivité. On voit aussi que sur la productivité par heure salariée aux États-Unis, on a une envolée. Donc cette productivité augmente. En Europe, c'est assez compliqué. On a une démographie vieillissante. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil au service de la productivité. On ne doit pas rater ce virage. Et donc là aussi, au-delà de l'approche de réglementer les choses, il faut une approche économique. Il faut pas avoir honte de dire comment les entreprises peuvent gagner de l'argent, comment elles peuvent être meilleures sur ce qu'elles savent faire. Et c'est pas, excusez-moi, cet ensemble de règles de conformité non-stop, cet ensemble de règles de reporting,
les meilleurs élèves alors qu'on l'est déjà.
Vigilance, cette CSRD, c'est pas une question d'être bon ou mauvais élève, c'est une question qui est aussi pas des asymétries de concurrence et des ruptures avec nos gros concurrents mondiaux, parce que faire la décarbonation en s'appauvrissant, ça permettra pas de répondre aux défis, vous parliez de questions sociales, aux défis de la protection sociale par exemple.
Fabrice Le Sachet, jeudi prochain, les principales têtes de liste françaises pour les européennes seront auditionnées par le MEDEF, donc Manon Aubry, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayer, Marion Maréchal, Marie Toussaint. À quoi va ressembler cet exercice ?
Les têtes de liste vont présenter leur programme. Ça va permettre de faire émerger ce débat économique.
Comme c'est un peu un grand oral face au patron ?
Ouais, un grand oral, c'est une façon aussi de comprendre qu'est-ce qui est proposé par chacune des listes, de pouvoir le comparer aisément, et puis aussi ça nous permettra de poser des questions aux têtes de liste sur les sujets qui sont importants pour nous, la réindustrialisation, le choc de simplification, l'innovation, un certain nombre de sujets, les accords commerciaux. Ça nous permettra d'interroger les candidats et de voir aussi quelles sont leurs réponses et de permettre à nos adhérents, aux chefs d'entreprise, de comprendre peut-être la façon dont il convient pour eux de voter pour avoir une Europe qui soit ambitieuse d'un point de vue économique.
Fabrice Le Sachet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vice-président Europe donc du MEDEF, on peut les suivre ces auditions quelque part.
Bien sûr, il y aura un lien public, donc tout à chacun pourra suivre ces auditions.
Dans une semaine, donc jeudi 18 avril.
Et c'est ouvert à la presse.
Eh bien on y sera pour Radio Classique. Dans un instant, les coulisses de la politique, encore un Conseil des ministres sous forme d'engueulade. Marion.